D'abord, je vais vous donner le bilan du jour au niveau de la COVID-19. 61 nouveaux décès au Québec aujourd'hui pour un total de 4363 victimes depuis le début de la pandémie. On est maintenant à plus de 50 000 cas, 50 232 cas confirmés. C'est une hausse de 530. Il faut faire attention là, parce que l'écrasante majorité de ceux-là sont guéris. Les bonnes nouvelles aujourd'hui, 1265 hospitalisations, c'est une baisse de 66. Ça fait deux jours que ça baisse de façon très substantielle. Rappelez-vous qu'il y a une dizaine de jours, on était à 1700 personnes hospitalisées. On est à 1200 aujourd'hui. Donc, pratiquement le tiers de moins de gens dans les hôpitaux. Aux soins intensifs aussi, bonne nouvelle, ça continue de baisser. On est à 172 personnes comparativement à 178 hier, donc une baisse de 6. Du côté de Québec, à la capitale nationale, on a 1532 cas, mais évidemment, plus des deux tiers sont déjà guéris, mais c'est 31 nouveaux cas depuis hier. On est à 103 décès. Il y a deux nouveaux décès, malheureusement, qui sont ajoutés. Du côté de la Rive-Sud, tout est stable. Il n'y a aucun nouveau cas, aucun nouveau décès. Il reste 57 personnes qui ne sont pas encore guéries des 593 qui l'ont contracté. Donc, côté de la Rive-Sud, de moi vous dire que c'est pas mal fini, la vague COVID. À Québec, ça commence à s'estomper. Puis au Québec, mais ça diminue pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. Mais même à Montréal, ça semble indiquer qu'on s'en va dans la bonne direction. Parlons maintenant, revenons sur ce qui a clôturé notre émission hier. Je vous ai parlé de Martin Matt, je vous ai parlé du Maxi, je vous ai parlé de cette publicité supposément grossophobe qu'ils ont retirée à la suite de protestations. Vous savez comment j'étais pas de bonne humeur et ça s'inscrit dans une démarche plus large où on a l'impression là, que la gauche qui veut nous censurer est de plus en plus présente et de plus en plus vocale. Elle est redevenue ce qu'elle était un peu avant la pandémie. Puis pour en discuter, on va aller joindre celui que vous connaissez comme chroniqueur au Journal de Québec, Mathieu Bock-Côté. Bonjour!
Bonjour!
Bon, Mathieu, d'abord, je veux que on parle un peu. On va commencer par la pub de Maxi, parce qu'il y a tellement de cas ces jours-ci que je ne sais pas par où commencer. Mais hier, c'est fou raide, là. On a tous pris du poids pendant la pandémie. Puis Martin Matt se moquait de ça, puis il nous a donné une bonne recette. Là, les tomates Savoura, ça a l'air qu'avec la crème glacée Quatica, que c'est très bon. Et là, il y a des gens qui ont été offusqués de ça, comme si on n'avait plus le droit de parler de ça ou de montrer quelqu'un qui est enveloppé. Je comprends même pas c'est quoi, à la limite, le problème de base, pourquoi les personnes se sentent attaquées par rapport à cette publicité-là.
Mais je dirais pas les personnes, hein. Ce sont des lobbies, des groupes idéologiques qui prétendent parler au nom de tout un segment de la population sans jamais l'avoir consulté et qui se constituent dans l'espace public avec une identité victimaire. C'est-à-dire, c'est un peu l'espèce, c'est la logique de l'époque. Hein. Je suis une victime, donc j'existe. Et comment se victimiser en s'imaginant victime d'une phobie. Donc là, les phobies se multiplient. Maintenant, on a inventé la grossophobie. Alors là, victime, donc là, il y a des grossophobes, il y a un système grossophobe. Et là, il y a des victimes de la discrimination de la grossophobie. Donc, tout un espèce de système, c'est ce que Raphaël Enthoven, l'intellectuel français, avait surnommé la tyrannie des susceptibles. C'est-à-dire, aujourd'hui, la moindre susceptibilité des uns se transforme en censure des autres, mais tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas aussi la lâcheté, généralement, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques, qui, devant la moindre accusation qui finit en phobie, tremblent et finissent par s'effondrer ou se liquéfier. Donc, devant ça, il faudrait simplement se louer de temps en temps une colonne vertébrale en disant, en résistant à ces petits lobbies qui ont beaucoup d'écho médiatique, mais qui servent fondamentalement, qui sont dans une logique de... Ils mettent en scène une persécution imaginaire pour ensuite se présenter comme les dénonciateurs d'une injustice.
Mais la grossophobie, t'as raison, là, c'est un nouveau mot. Moi, je savais même pas que ça existait, ce mot-là, jusqu'à il y a quelques mois. Mais on en entend de plus en plus parler. On se souvient que Nathalie Simard, parce qu'elle avait perdu du poids, puis elle était contente, puis elle a pris une photo, elle s'était fait ramasser ses réseaux sociaux en disant qu'elle était grossophobe. On a l'impression que... Mais ce qui est bizarre, c'est que quand Safia Nolin se prend nue en photo et qu'elle met ça sur les réseaux sociaux, elle passe pour une courageuse, puis une pionnière. Une fille qui serait petite et jolie, elle passerait pour une salope. Tu sais, il y a quelque chose de vraiment tordu dans cette logique-là. Je comprends pas c'est quoi ce mouvement-là. Qu'est-ce qui les anime fondamentalement?
Ben, moi, il y a deux choses là-dedans. C'est-à-dire, premièrement, j'y reviens, c'est pour moi la logique victimaire. C'est-à-dire, la logique victimaire conditionne l'esprit de l'époque. La condition d'entrer dans l'espace public, globalement, c'est de se présenter comme une victime, en gros, pas sans mauvais jeu de mots, de l'homme blanc hétérosexuel de plus de 50 ans. Dans la mesure où on peut être une victime d'une manière ou de l'autre de cette figure, eh bien, on réussit à rejoindre l'espace public et on a le privilège moral du discriminé. Disons ça comme ça.
Ouais.
Et on peut donc faire un procès. Ensuite, à partir de là, les catégories se multiplient. Et ce qui est choquant, parce qu'en gros, moi, ça me dérange pas, chacun peut bien dire ce qu'il veut de lui-même, ça le concerne, mais ce qui est agaçant, c'est cette dynamique qui fait en sorte que tous sont poussés à se victimiser. Je vais donner un exemple sur un autre registre.
Oui.
Mais je connais bien des gens qui que j'ai connus qui, il y a 20 ans, étaient des Québécois comme vous, comme moi, comme mon voisin, comme mon père, mais qui donc dont les origines n'étaient pas exclusivement françaises, donc c'est comme ça, mais ils voyaient comme des Québécois, comme on se voit, ils étaient tous comme des Québécois, parce qu'il y avait une forme de force de l'identité nationale. Et bien, aujourd'hui, la tendance est forte pour plusieurs d'entre eux de se dire, désormais, se référer non plus par leur appartenance commune, le Québec, mais par leur fragment d'identité d'origine minoritaire, donc en mettant de l'avant leur identité minoritaire, entre guillemets, sous le signe de la victime, en disant, ben oui, moi, je suis extérieur à ce grand nous patriarcal, blanc, et ainsi de suite. Mais donc, moi, devant tout cela, je dis, il va falloir calmer cette espèce d'inflation,
cette folie,
des revendications victimaires qui poussent, en fait, une société de moins en moins vivable.
Mais c'est parce que là, c'est grave, là. Un médecin ne peut plus dire que l'obésité est un problème de santé, là. Parce qu'il va faire, il va passer pour grossophobe. À un moment donné, la science va être questionnée parce que cette idéologie-là est plus forte que la science, là, dans leur tête, là.
C'est une forme de, le réel ne passera pas, d'une certaine manière, nous disent certains progressistes. C'est-à-dire, le réel heurte la sensibilité des uns et des autres. Donc, on est quand même dans une société qui en est venue à croire que hommes et femmes sont des catégories symboliques arbitraires qui n'ont aucun fondement dans la réalité parce que l'identité de genre serait purement, autodéterminée, un choix. Tu sais, comme si le sexe ne mordait pas sur le genre, disons ça ainsi. On est dans une société qui veut nous faire croire que 2 plus 2 égale 5, finalement. Donc, on est dans une société qui va aussi chercher à nous faire croire que, quel que soit notre taille, notre poids, il faut surtout pas distinguer entre ça, parce que s'il y a distinction, il y a discrimination. Or, à ce qu'on en sait, la médecine a quand même 2-3 choses à nous dire sur ce qu'est avoir un poids santé, comment réussir à durer plus longtemps, quelles sont les bonnes habitudes de vie ou les mauvaises. Tout ça, ça existe, mais encore une fois, le réel ne passera pas parce qu'apparemment, le réel serait discriminatoire, nous dit-on.
Mais on attends une minute, le monsieur, j'essaie juste de comprendre. Si ça avait été un acteur qui est gros pour vrai, est-ce que là, ça aurait passé? Parce que, est-ce que c'est le costume qui dérange? On est-tu encore dans quelque chose comme ce qui s'est passé avec le blackface, le pseudo-scandale de la dernière élection fédérale de Justin Trudeau? Est-ce que c'est le déguisement qui dérange ou c'est la présence de gras?
Moi, je ferai une nuance, c'est-à-dire récemment, j'ai vu passer ça, je commente à partir de nouvelles superficielles, mais une chanteuse, Adèle, je crois, a mis une photo où elle avait perdu beaucoup de poids, et là, on a vu des gens lui reprocher en disant « Ah, tu sais ça, tu te soumets au code de la minceur obligatoire, et donc tu participes au dispositif grossophobe ». Donc, on est dans une espèce de délire idéologique en ce moment, aujourd'hui, où on cherche à tout idéologiser. Par ailleurs, dans le cas présent, je veux dire, si un acteur n'a pas le droit, en plus, un humoriste dans les circonstances, n'est pas en droit de porter un déguisement quel qu'il soit, mais c'est qu'on rentre dans une société véritablement de cul serré.
Il y a un auditeur qui me dit que c'est de l'appropriation adipeuse. Après l'appropriation culturelle.
L'appropriation corporelle. On sait aussi, soit dit en passant, qu'il y a aussi, je lisais ça il y a quelques mois, on dit aussi que de moins en moins, un acteur, par exemple, ne pourrait jouer le rôle d'un handicapé s'il n'est pas handicapé lui-même. Mais moi, quand je pense à ça, je pense au film Parfum de femme avec Al Pacino qui joue de manière absolument magnifique le rôle du colonel Frank Slade, qui est un aveugle, et Pacino a été exceptionnel dans ce rôle. Est-ce qu'on doit considérer désormais que ce rôle relevait de l'appropriation corporelle? Alors, à un moment donné, il va falloir cette espèce de sacralisation des identités, sauf de l'identité nationale, qui paradoxalement, elle, était beaucoup plus large, beaucoup plus accueillante. Cette sacralisation des identités fait que chacun peut se transformer en procureur de l'autre, dès lors qu'il heurte sa sensibilité. Donc, c'est toute une forme d'hypersensibilité identitaire et idéologique qui, aujourd'hui, fragilise la possibilité même de la liberté d'expression.
Parle-moi maintenant de Montréal, parce que j'ai vu que vous aviez des débats importants, alors que Montréal est le hotspot et un des 5 endroits au monde où la COVID-19 frappe le plus fort. Pendant ce temps-là, vos élus municipaux discutent et adoptent une communication épicène.
C'est aussi le cas, je précise, à Gatineau.
Oh, à Gatineau, OK, je voulais pas être les seuls dans le bain. À Québec, heureusement, on a été épargnés pour l'instant. Mais Mais c'est un peu la même mouvance, non? C'est un peu la même folie puis la même dérive dont on parle.
Oui, c'est ce que j'appelle, moi, le régime diversitaire qui cherche à convertir entièrement la société à son fantasme. dans ce cas-là, autour de cette querelle montréalaise, c'est cette idée que la langue française porterait en elle la suprématie du masculin. Elle serait sexiste. Et dès lors, il faudrait déconstruire les structures sexistes de la langue française premièrement, en contestant le primat du masculin, qui est un masculin neutre, pourtant, en français. Donc, en disant « ça ne compte plus ». Ensuite, on déstructure les règles propres de la langue pour véritablement les remplacer par des règles idéologiques. Et là, ça peut amener quelquefois des propositions loufoques. J'ai pas la formule exacte en tête, mais en gros, plutôt dire la ville recherche un responsable de l'écriture épicène. Ça devrait presque dire ville recherche responsable écriture épicène. Bon, alors moi, je dis et ça, madame, le progressisme aujourd'hui, dans sa version non pas féministe en général, mais un certain féminisme très radical, consiste désormais à massacrer la langue française. J'en conclus donc qu'il suffira d'écrire correctement pour devenir réactionnaire.
mais peut-être qu'à Montréal, Mathieu, la solution, là, c'est que tout le monde parle anglais. De toute façon, c'est déjà bien commencé. Non, parce que, là, étant donné que la langue anglaise est neutre à cet égard, peut-être que Mme Plante, elle aimerait mieux ça, parler juste en anglais. Elle nous en a fait d'ailleurs la démonstration à quelques occasions.
Ben, ça lui arrive à quelques reprises, en effet, de je me rappelle ce fameux discours où elle avait oublié de parler en français dans sa propre ville. Ça, pour moi, je me souviens, c'est ce qu'on pourrait appeler, c'est la version hipster d'Elvis Gratton. C'est-à-dire, c'est cette espèce d'Elvis Grattonisation des consciences qui amène à croire qu'en passant à l'anglais, on est soudainement plus évolué, plus moderne, maintenant plus progressiste parce qu'on a vaincu le primat du masculin, apparemment. Donc, non. Mais c'est quand même, cela dit, la boutade vaut la peine d'être mentionnée. C'est-à-dire que, alors que le véritable problème à Montréal, à ce que j'en sais, c'est l'anglicisation de la métropole, c'est la perte de statut du français, c'est le fait que le français devient une langue sur deux, et en Amérique du Nord, là-dessus, c'est inévitable.
C'est que Montréal est rendu désincarné du reste du Québec. On a l'impression qu'on vit plus dans le même univers.
Et c'est la tentation de la sécession mentale de la métropole. Faut se rappeler le débat sur la charte des valeurs et sur la charte de la laïcité.
Toutes les élections, on voit la carte aussi, puis ça ressemble à ça, Mathieu. On a l'impression de ne pas vivre dans le même monde.
Non, mais ça va plus loin. C'est dans le débat sur la Charte de la laïcité. Plusieurs souhaitaient une forme de société distincte municipale, une possibilité que la loi ne s'applique pas à Montréal. Donc, autrement dit, Montréal veut se séparer mentalement du reste du Québec. Pour ce qui est des résultats électoraux, on connaît la cause de ça. C'est que c'est l'effet d'une immigration massive qui transforme fondamentalement la démographie montréalaise. Moi, ce que je vois à Montréal, c'est la multiplication des comtés protégés, comme on disait autrefois. Mais ça, c'est apparemment la grande question taboue dans la vie politique québécoise.
Il y a une époque, c'était l'ouest de l'île, mais aujourd'hui, c'est l'île au complet. C'est même rendu Laval, puis les mêmes certaines banlieues.
C'est des comtés sur la rive sud. Oui, donc là, mais ça, c'est une réalité qu'il n'est pas permis de mentionner sans que les patrouilleurs de ce que j'appelle la police diversitaire, l'antiracisme officiel, viennent nous dire que c'est du racisme que de constater l'effet que la transformation démographique a des effets politiques.
Il y a un auditeur qui le résume bien. Il dit « Montréal, c'est parce que c'est rendu une colonie canadienne. On a plus l'impression que ça fait partie du Québec. »
c'est un vrai problème, ça, tout en passant. Il faut se rappeler que dans les années 90, Paul Martin avait dit « Ce qu'il faut, c'est redéfinir le Canada, avoir des liens entre le fédéral et les métropoles. Il fallait marginaliser les provinces, selon lui, parce que les provinces étaient des unités politiques déphasées. »
L'avenir, c'était les villes.
Ouais, et là, aujourd'hui, Montréal, effectivement, est en train de se faire canadieniser mentalement considérablement. Et c'est pour ça que, pour moi, un des grands enjeux de la politique québécoise des prochaines années, c'est de réquébéciser mentalement, symboliquement, culturellement Montréal, en rappelant que Montréal est la métropole cosmopolite, charmante, plurielle, sans le moindre doute, mais du Québec, du pays qui s'appelle Québec. Et Montréal ne peut pas faire sécession mentalement du reste du Québec sans perdre en plus son originalité. C'est ça qu'on oublie souvent, c'est que Montréal n'est intéressante que parce que c'est une métropole de langue française, une métropole francophone. Oui. Le jour où Montréal se
fait
français...
C'est un mini-Toronto, ça n'a plus de valeur. Là,
un mini-Toronto sans intérêt, un Plattsburgh plus au
un
nord,
Toronto
un Pittsburgh ennuyant, un Cleveland oublié. Je veux dire, c'est plutôt ennuyant tout ça. Donc ça, pour moi, c'est un enjeu fondamental, réintégrer symboliquement et politiquement Montréal dans du Québec.
Là, je veux finir en te parlant de la COVID parce qu'on parle tous de ça depuis 3 mois. Toujours cette même petite cliquette là, de radicaux nous font croire aujourd'hui que le coronavirus serait sexiste et misogyne parce qu'il s'attaquerait davantage aux femmes, selon certaines féministes. D'ailleurs, premièrement, les chiffres ne leur donnent pas nécessairement raison. Ça dépend où on regarde, là. Mais ce qu'elles disent, c'est qu'étant donné que c'est surtout des femmes qui travaillent comme préposées aux bénéficiaires et comme infirmières, ce sont elles qui sont au front et ce sont elles les premières victimes de ce qui se passe présentement. Est-ce que la COVID-19 ou le coronavirus, je sais pas s'il faut le dire au masculin ou au féminin, est-ce que c'est sexiste et misogyne selon toi, Mathieu?
Non, ben là, il y a deux choses à dire. Premièrement, et puis ça, c'est la première chose à dire, c'est qu'il faut célébrer le courage de tous ceux et de toutes celles qui sont dans les CHSLD, dans les écoles.
Peu importe leur sexe.
Et peu importe leur sexe, c'est ça. Et moi, je trouve que c'est un courage immense. Puis toute réflexion sur ça commence par la célébration de ce courage bien réel, qui est pas partagé par tous. J'en connais plusieurs et je me range dans la catégorie des gens qui sont plus inquiets que rassurés devant tout ça. Et j'admire ceux qui vont là. Ensuite, il y a cette lubie aujourd'hui d'une forme de sociologie très, très marquée dans l'université qui veut voir du racisme et du sexisme partout et qui interprète tous les phénomènes sociaux à la lumière du racisme et du sexisme. Donc, dès lors qu'on veut en voir partout, bien, on voit du sexisme dans la grammaire, on voit du sexisme dans les maladies.
Oui, mais il y en a des sexistes, des racistes qui sont acceptables. Je le voyais, je pense que tu l'as partagé sur ta page aussi, Facebook. Et là, ils ont une application où les Noirs peuvent aller pour magasiner dans des commerces qui appartiennent à des intérêts de Noirs.
Ça, c'est ce que j'appelle le racisme médiatique.
Mais ça, ça passe.
C'est terrible. Moi là-dessus, il y a une chose, ça, c'est vraiment... Dieu sait que je suis très méfiant par rapport aux États-Unis. Et s'il y a une chose que je veux pas importer des États-Unis, c'est le racialisme. Cette manière de se définir selon la couleur de sa peau. C'est une manière de dire la solidarité est raciale. Moi, puis j'en ai vu plusieurs qui ont dit « Ah, il y a un panier noir, en guillemets, parce qu'il y a eu un panier bleu pour l'ensemble du Québec. » Non! Le panier bleu s'adresse à l'ensemble des Québécois, qu'on soit noir, qu'on soit blanc.
Mais oui, notre peau n'est pas bleue, nous autres.
Le critère n'est pas racial, il est national. Et là, nous dire l'appel à la solidarité raciale, pour moi, c'est toxique. Quelle qu'elle soit, la solidarité blanche serait tout aussi toxique. Il n'y a aucune nuance à faire là-dessus.
Que panier bleu, c'est pas pour les schtroumpfs, me précise quelqu'un.
Mais c'est fourette quand même, cette espèce de racialisme qui, aujourd'hui, est en train de se présenter comme un marqueur de progrès. C'est comme si on se disait que se définissant par la couleur de notre peau, on allait progresser comme société. Puis moi, j'aimerais rappeler deux choses là-dessus qui me semblent fondamentales. Eh bien, ce qui distingue les peuples, c'est la culture, c'est la langue, c'est l'imaginaire, c'est pas la couleur de peau. Un Afro-Américain n'est pas un Haïtien, qui n'est pas un Congolais, qui n'est pas un Togolais, qui n'est pas un quelqu'un qui est arrivé au Québec il y a deux générations, qui est parfaitement intégré au Québec. Donc, un, rappeler l'importance des cultures. Et deuxièmement, tous les gens de la même couleur sont pas identiques. À ce que j'en sais au Québec, le fait qu'il y ait des Français et des Anglais, eh bien, on s'est combattu historiquement tout en ayant la même couleur de peau et on n'a pas la même histoire. Les descendants de Lord Durham ne sont pas les descendants symboliques de Papineau. À un moment donné, le véritable critère, au Québec encore plus, le critère de distinction historique, il est linguistique, il est culturel, il n'est pas racial. Et là, on cherche à importer de force des critères raciaux au Québec. Moi, je pense qu'on doit condamner ça au nom de cette idée fondamentale que la nation nous rassemble. Il peut avoir ensuite chacun des fidélités qui sont les siennes, des préférences culturelles, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le jour où on va racialiser le Québec comme ça, eh bien, on va avoir régressé comme société. Et pourtant, certains nous présentent ça comme un progrès.
Absolument. Mathieu Bock-Côté, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci infiniment d'avoir pris le temps de jaser à nos auditeurs.
Au grand plaisir. Au revoir.
Bye.